BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art. Ce mois-ci, nous allons explorer à nouveau l'univers de Jacques Martin avec la série Le Franc. Alors Le Franc, même si Jacques Martin n'est plus là, la série est toujours là. Le tome 35, Bombe H sur Almeria, vient de paraître avec au scénario Roger Setter et au dessin Régéric. On est en 63, Le Franc se rend à Almeria, mais malheureusement, il y a une menace nucléaire. On n'en dira pas plus, mais en tout cas, cette menace nucléaire, elle court tout au fil des aventures de ce journaliste dont on va aujourd'hui explorer l'univers. Alors, on va explorer notamment l'album L'Apocalypse, le 10e de la série, sorti en 86. Nous allons parler plus précisément des planches 32 et 33, à savoir que cet album a bénéficié à l'époque d'une édition collector avec une VHS qui expliquait tous les aspects un peu occultes et mystérieux de cette aventure hors norme qui va concilier histoire et science-fiction. Ce projet, il existe chez Jacques Martin dès les années 70 et il va passer à cette occasion le relais à Gilles Chaillet. Gilles Chaillet qui est dessinateur de Vasco, et les deux hommes vont collaborer pendant 10 ans, Jacques Martin restant au scénario. Alors cet album, il est très déconcertant, c'est un peu l'équivalent des bijoux de la Castafiore dans la série Tintin, où notre héros n'est plus vraiment acteur, mais spectateur de quelque chose qui se déroule et que le lecteur va avoir du mal à comprendre. Alors, rappelez Jacques Martin, un grand de la BD franco-belge, un grand nom du journal Tintin, 1921-2010, Jacques Martin est... On l'a déjà parlé de lui pour Alix, c'est quelqu'un qui est né à Strasbourg, qui voulait faire du génie industriel, le papa était aviateur, et on va retrouver dans la série Le Franc, notamment le père de Le Franc, qui est aviateur aussi. Il va découvrir la BD avec Buster Brown, il va aussi s'intéresser au cinéma. Au niveau de son univers, c'est un grand lecteur de Jules Verne, de Huysmans, donc quelqu'un d'une grande culture. Il va commencer sous le pseudo de Marleb, avec des séries qui n'auront pas de postérité, comme Hibou Gris. Il va illustrer un certain nombre d'ouvrages, il va collaborer avec la revue Bravo, et ensuite, petit à petit, il va rentrer au journal Tintin, donc c'est en 48, il propose une planche d'Alix à Raymond Leblanc, et il va créer effectivement ce personnage qui apparaît en couverture dans les années 45. Il va être membre du studio Hergé pendant 19 ans, il va travailler sur la série Voir et Savoir, il va collaborer sur les décors des aventures de Tintin pour vraiment devenir autonome avec un certain nombre de séries, dont Alix, et aujourd'hui nous allons parler de Le Franc. Alors, sur l'aventure de Le Franc que nous évoquons aujourd'hui, Jacques Martin devient scénariste. Et il est scénariste dès le tome 4 de la série Le Franc qu'il a contribué à créer. Alors, le tome 4 est dessiné par Bob Demore, qui fait partie de l'écurie Hergé. Martin va faire un synopsis, c'est-à-dire un récit très bref, un scénario. Il va indiquer le découpage précis, et Chaillet va dessiner les personnages, et effectivement, on va avoir des assistants qui vont travailler, notamment Chantal de Fachel, qui va devenir sa femme après, et nous avons effectivement l'idée d'un succès de cette série Le Franc, qui était basée sur une idée. Bon, il va y avoir un one-shot qui s'appelle La Grande Menace. Martin part de l'idée réelle que, après la guerre, les Allemands ont abandonné des missiles nucléaires V1 au col de Bussan dans les Vosges. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, ces missiles sont mal employés? Voilà. Et la série Le Franc va se développer. Alors, Gilles Chaillet, lui, est au dessin de L'Apocalypse. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans sur la série. Il a un bac de philo en poche. Il est fan d'Alix, forcément. Il a travaillé avec Hubinon sur Barbe Rouge, il a illustré les albums Idéfix et il a créé effectivement la série Vasco autour de l'univers du Moyen-Âge vu par un banquier. Et effectivement, c'est Claude Moliterni qui va introduire Christian Chaillet pour la série Le Franc à partir du tome 5, Les Portes de l'Enfer. Alors, les planches que nous allons écouter, c'est donc les planches 32 et 33 de cet album assez étonnant. On va en donner rapidement le pitch. C'est que Le Franc, qui est un journaliste indépendant, il est invité à un séminaire organisé par une organisation nommée Promundia. Alors, ce séminaire conserve les graves problèmes qui pèsent sur l'humanité et mettent en cause sa survie. Et il est conduit par un étrange personnage dans un bunker secret dans les Alpes. Il va constater que d'autres personnalités ont été conviées, notamment son pire ennemi Alex Borg. Durant le séjour, il est contraint de subir un entraînement intensif avec les autres invités. Il va donc voyager dans le futur, où il va faire la connaissance de descendants des humains. Ces personnages ont subi des mutations qui ont changé la Terre et aussi leur apparence physique. Et bien entendu, ils vont voir l'évolution possible de l'humanité. Et les deux planches que nous allons commenter montrent Lefranc confronté à un phénomène assez étonnant. Voilà, donc on va écouter les planches 32 et 33 du tome 10, L'Apocalypse. Alors, nous sommes dans une scène au Moyen-Âge que nos héros regardent sur une télévision. Les hurlements du malheureux perdu à jamais pour l'art résonnent dans ma tête à travers les siècles. Nous voyons une scène où un artiste est flagellé et battu par des moines. Une scène de violence avec des soldats. Borg prend la parole. « Eh bien, si vous ne voulez point parler d'autre chose, je vais me retirer dans ma cellule. Bonsoir. » Lefranc. « Dormez bien. Il est d'ailleurs temps de se reposer, nos gardiens l'ont précisé. » Personnellement, je préfère le style romantique, mais il faudra bien m'en faire une idée. L'essentiel est de savoir combien de nuits il faudra encore passer dans cet univers de ferraille et de plastique. Ah, s'il y avait au moins un bon film à la télévision. Ah, Le Guépard de Luchino Visconti, enfin de la qualité. Et quelques heures plus tard, Lefranc se réveille face à une télévision qui diffuse un mystérieux programme. Le speaker. Pour vous, descendez lentement le bus bien droit en gardant les coudes très haut. Oh, la gymnastique, diable, quelle heure est-il ici? 8 heures. Oh, bon sang, est-ce bien raisonnable? Allons-y. Enfin, nous nous retrouvons sur la passerelle d'un curieux aéroport avec des sphères mystérieuses. Borg, les répétitions de ces séances sont vraiment fastidieuses. Lefranc. Patience, j'ai le sentiment qu'ici rien n'est fortuit et que nous sommes entraînés vers un but précis. La seule chose à craindre est la fuite du temps. Beaucoup trop à mon gré. Voilà notre alvéole. Nous rentrons dans le vaisseau et nous voyons un curieux personnage avec un casque qui parle dans leur tête. Merci pour votre ponctualité et cette discipline que vous observez si scrupuleusement. Veuillez donc allumer vos écrans et écouter attentivement. G177, si jusqu'ici vous avez pu sélectionner à votre guise l'époque qui vous intéressait, nous estimons devoir choisir nous-mêmes la période qui convient, cela en raison de l'enjeu final. Soyez prêts, fixez l'écran, attention, c'est parti! Voici la période qui a été retenue pour votre principale édification. En effet, nous tenons à ce que chacune des personnes sélectionnées par Promundia reçoive des informations majeures sur la destinée de la race humaine. G177, celle-ci est la vôtre. Qu'est-ce donc que tous ces objets dans le ciel? Lefranc, on dirait une quantité fantastique de ballons métalliques qui flottent dans les airs, et là-bas il y en a plusieurs de tout petits qui arrivent à grande vitesse. On voit toute une série d'aéronefs sphériques, effectivement, qui atterrissent. Il grossit à vue d'œil, se dirige vers moi, enfin dans ma direction. Que se passe-t-il? Il s'arrête, tout près. Allô, G77, vous entendez? Vous nous voyez? Le contact est donc établi. Nous représentons la haute direction de la section Y de l'habitat général de cette planète. Nous savons qu'un contact devait être établi avec vous, malgré que bien du temps nous sépare, du moins en apparence. Comme l'écart entre votre civilisation et la nôtre est important, il est nécessaire que nous vous fournissions quelques renseignements. Par exemple, il est primordial de savoir que présentement, il n'y a plus aucun être humain sur le sol terrestre, sauf pour y travailler par moment, un temps strictement nécessaire. Mais vous en saurez davantage en nous suivant. Lefranc, que voulez-vous dire? Ce n'est pas possible, je ne peux pas entrer dans votre espace. Si, écoutez bien. Approchez du hublot près de vous, faites fonctionner le cadran dans le centre des aiguilles d'une montre. N'ayez aucune crainte, ce diaphragme va s'agrandir et ainsi vous pourrez pénétrer à l'intérieur. Soyez rassurés, votre retour est garanti et nous avons pris des engagements avec l'organisme qui a la charge de votre vie, dit un mystérieux personnage avec des lunettes noires. Le franc. Voilà, très bien. Le personnage parle dans sa tête. Avancez encore, collez-vous le plus possible contre la paroi du dispositif. Et subitement, et là, le franc sort de son vaisseau dans une bulle microcosmique qui lui permet de voler dans l'espace, dans la direction des mystérieux vaisseaux sphériques à suivre. Voilà, alors maintenant, pour commenter ces planches, se dire ce qui est très intéressant, c'est l'alternance des cases qui nous montre le voyage dans le temps du personnage. Alors, on est à un moment donné dans l'Italie du XVIIe, alors c'est bien entendu un écran, et le personnage qui regarde ça, ça a un lien, effectivement, avec sa biographie. On a un lien, bien entendu, avec le franc qui est un avatar d'Alix, donc il est projeté peut-être dans une vie antérieure. On peut imaginer qu'il serait la réincarnation d'Alix. Un voyage dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, notre le franc va sortir dans une espèce de bulle macrocosme et va rencontrer ces fameux hommes du futur qui sont pas des extraterrestres, mais des terriens de demain. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que Martin, enfin, et Chaillet sont formés au gaufrier classique. On est sur un dispositif entre 8 et 9 cases. Et on a vraiment un sentiment de monde déshumanisé, puisqu'en fait, les intérieurs sont froids, les couleurs sont assez ternes. Et on a des hommes face à des écrans, hein, les écrans qui deviennent des instruments de pédagogie. Et par contre, effectivement, on a une inventivité dans les vaisseaux extraterrestres qui sont de forme sphérique. Et on a le sentiment qu'effectivement, au niveau du scénario, ils se sont beaucoup documentés sur les travaux de Jean-Pierre Petit sur la question des forces éthériques et de l'antigravité. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez étonnant. Donc cette aventure n'est pas comme les autres et nous amène à un certain nombre de réflexions qu'on va avoir ensemble. Alors, le héros, le franc, qu'on voit dans cette aventure, il est plutôt passif. D'habitude, c'est quelqu'un un peu comme Tintin, qui est très actif. Il est journaliste reporter, hein, donc on peut dire que c'est un avatar de Tintin un peu plus adulte, un peu plus réaliste. C'est vrai que au niveau éditorial, l'idée de Leblanc, c'était de demander à Martin de faire un Alix reporter, donc il y a une ressemblance. Il y a même l'idée d'un enfant qui serait l'équivalent de Hénac, ça serait Jean-Jean le louveteau, mais il est vite éclipsé, parce qu'en fait c'est un frein aux aventures d'Alix. Notre Lefranc, c'est un héros droit et pur, hein. C'est un bon garçon dénué de personnalité, selon Numa Sadoul. Et le méchant, avec qui là il collabore, Borg, va le décrire dans le tome 3 comme un héros parfait, mais sans aucune saveur, sans aucun intérêt. Donc effectivement, on a ce héros qui est un héros en creux, et le méchant est souvent, comme chez Jacques Martin, plus intéressant que lui. Alors, ce méchant, on va en dire quelques mots, c'est la némésis de Lefranc, il s'appelle Axel Borg. On sait que c'est un aristocrate industriel danois qui a possédé une usine de textile, c'est aussi un collectionneur d'art. On peut imaginer que c'est une espèce d'avatar d'Arsène Lupin. Contrairement à Arbacès dans Alix, lui, ce que recherche Borg, c'est l'argent. Hein. Arbacès recherche le pouvoir, lui, c'est l'argent. Est-ce qu'il est complémentaire de Lefranc ? Sans doute, oui, c'est un peu une image inversée. Et là, dans cet épisode, ils sont côte à côte. Ils vont presque fraterniser face à cet enjeu de sauver l'humanité en ayant des informations. Et à un moment donné, Borg dit à Lefranc, mais j'ai des choses importantes à vous dire. Petite lacune, on ne saura jamais ce que Borg voulait dire à Lefranc. Voilà, ça c'est quelque chose. Il devait y avoir une suite à l'Apocalypse qui n'a jamais été réalisée. C'est peut-être pour ça qu'on a une espèce d'omission. Alors, il ressemble beaucoup à Louis de Bavière, ce personnage d'Axel Borg. Il a eu un passé traumatique, il a été humilié par sa mère. Et effectivement, c'est un artisan hein, dans les différents Lefranc. Il essaie de se rendre maître de l'atome, ça sera dans le tome 17. Et quelqu'un qui essaie effectivement pour des raisons financières de vendre des armes atomiques et il pourrait aussi travailler à la dégradation du monde, mais il a aussi un autre argument avec ses réseaux bancaires, c'est l'inflation qui peut aussi semer le chaos. Vous voyez, entre l'atome et l'inflation, on est dans un écho avec notre actualité assez étonnant. Alors, l'univers de Lefranc, c'est un contexte géopolitique propre à la guerre froide. Hein. On n'en sort pas, même la nouveauté, qui est un spin-off, et se passe en 63. On reste dans cet univers de tension froide entre les USA et la Russie. On a effectivement tout un univers d'avions et d'autos qui sont très bien dessinés par Martin et puis Chaillet. La grosse tension sur l'équilibre nucléaire. Et effectivement, dans cet album, un point central, c'est la surpopulation et la surnatalité d'un monde qui est en crise parce qu'on n'aura pas finalement des ressources pour tout le monde. On réfléchit aussi à travers cette histoire sur le passé, les tragédies de l'histoire, c'est-à-dire le fait que tous les sauveurs potentiels sont devenus des tyrans. On a l'exemple de Napoléon, de Louis II de Bavière qui est devenu fou. Et on a cette secte ambivalente qui s'appelle Promundia, qui pourrait peut-être faire penser au forum de Davos actuel, on ne sait pas. Ils restent très ambivalents dans leur volonté de contrôle de tout ça. Et ces extraterrestres qui seraient peut-être des terriens du futur, c'est presque des hermaphrodites, il n'y a plus de séparation sexuelle. Et donc, ils ont un maximum de 50 ans à vivre. Voilà. Donc, c'est un futur dystopique assez étonnant. Alors, au niveau des influences graphiques que Martin a transmis à Chaillet, on est vraiment dans la ligne claire de Hergé et de Jacobs, à tel point qu'à l'époque, Jacobs avait défié Martin en duel parce qu'il estimait qu'il copiait l'univers de Blake et Mortimer. Alors, les grandes références dans cet album, et dans l'œuvre de Lefranc, de Martin pour Lefranc, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a le mythe templier qui va revenir plusieurs fois. Le scénario de la fureur des temps est recyclé dans l'arme absolue et l'ultimatum. L'idée du père aviateur dans l'homme absolu, l'idée de Wells et de la machine à explorer le temps qui est très présente dans cet album, et les références cinématographiques qui apparaissent, c'est bien entendu Soleil Vert de Richard Fleischer, tiré du roman d'Harry Harrison, mais aussi toute cette nostalgie du changement et du changement qui ne change rien qu'on retrouve dans Le Guépard de Visconti. Alors, le style graphique, c'est toujours chez Chaillet maintenant un héritage de Martin, un style semi-réaliste, genre très néoclassique, il y a vraiment un sens de la perspective, un sens des décors et effectivement l'idée d'arriver vers une ligne très épurée. Alors, les thématiques qu'on a dans l'album et dans la série, c'est cette idée toujours présente du sens occulte de l'histoire et du désaveu d'une certaine forme de classe politique. Toujours l'idée d'un groupe occulte qui va menacer la paix. Alors là, on a un groupe occulte qui serait positif, la secte Promundia, mais on ne sait jamais. Alors toutes les inventions, là on est plutôt dans des inventions des sphères qui permettent de voyager dans l'espace, des vaisseaux spatiaux. On a des armes bactériologiques dans le Mystère Borg. On est vraiment aussi dans un univers un peu fantastique. Les grottes, les portes de l'enfer avec des divinations et des oracles. Et cette idée aussi de personnages qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes. C'est des personnages qui sont célibataires, il n'y a pas de femme. Il y a Borg qui a perdu sa mère. Et effectivement, un certain nombre de mystères et de révélations non dites entre les personnages. Alors, la postérité de l'album à l'Apocalypse, c'est un deuxième tome, Planète Rouge. Les hommes du futur vont théoriquement les laisser revenir pour informer les êtres de l'actualité que nous sommes, pour éviter d'arriver à la catastrophe d'un monde sans âme. Bon, là, ce tome sera jamais achevé par Jacques Martin. Bon, après, le personnage de Lefranc, lui, va être repris, va être continué. On arrive au tome 35. Une belle expo au Centre Belge de la BD en 2003, à 50 ans d'aventure. Et effectivement, d'autres dessinateurs, Christophe Simon, qui prend la suite, formé par Jacques Martin, parce que Gilles Chaillet va voguer vers les aventures de Vasco, qui lui sont propres. On va aussi avoir Fabrice Carin pour l'ultimatum, dernier scénario de Jacques Martin, et un certain nombre de scénarios, comme le Maître de l'Atome, va être mis en album en 2006. Et effectivement, il reste encore un scénario d'activisme écologique, la Vallée des Larmes, qui reste encore à illustrer. Voilà, donc la série Lefranc n'a pas fini de nous surprendre. Alors, quel est le sens peut-être profond de cette série aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle apporte au monde de la bande dessinée ? Eh bien, on a, avec cette création, une anticipation vraiment assez étonnante de la série James Bond, finalement, avec notamment le méchant de Borg et son réseau, qui peut faire penser au réseau du Spectre. Une dénonciation du supercapitalisme aveugle, une question vraiment sur la guerre du futur, guerre atomique, guerre économique, une question fondamentale sur la surpopulation et aussi la colonisation de l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est avec cette série sur quelque chose de doux amer, d'une fable. C'est-à-dire que Chaillet et Martin sont des conteurs et ils nous amènent dans un univers étonnant où effectivement on est entre la science, la génétique et aussi la fable d'une dystopie qui peut-être pourrait devenir une utopie si les êtres arrivent à s'entendre et à faire la paix avec leur part d'ombre. C'est tout l'enjeu de la série Le Franc qui est encore dans toutes vos bonnes librairies. Merci Monsieur Martin et Monsieur Chaillet pour nous avoir fait réfléchir au sens de notre vie dans un monde capitalistique impitoyable.